venez voir. Et il y en a plus 120, 120 et sans âme sont vite, venez.
Viens, Médée, il faut voir ça.
CO2, mon amour.
Je t'avais dit.
10 ans plus jeune, je vous aurais eu aux 20 douzaine. Mais alors là, je suis fatigué.
T'en as pris combien en fin de compte?
Ah, je sais pas, j'ai pas compté. Je sais pas compter. Bon, en tout cas, pour la pêche à la grenouille, je ne veux pas perdre la main.
Ça.
Denis Chessoux sur France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 Mon Amour, émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature. Vous l'entendez avec tous ces sons et nous irons un petit peu partout en France dans différents milieux avec aujourd'hui à la technique Léo Prangère et Élodie Royer et assistée de Camille Blanès. C'est Hélène Biziot qui réalise cette émission. Alors je vous parle de printemps, et bien c'est parti pour notre ronde de printemps. Ronde de printemps, Prévert est en balade depuis 40 ans, mais le printemps fleurit toujours pour les enfants qui prennent un bol de grands balles de printemps. L'herbe et les plantes sauvages sont en fleurs sur son carré d'éternité, oui, dans le Cotentin, sous l'usine de la Hague. C'est là que Prévert, radieux, pas irradié, attend le printemps en écoutant valser les vagues. C'est là que naissent aussi et meurent les petits, les grands amours. Un grand bal de printemps qui fait valser les mots, qui fait tourner la com. Ah oui, combat de femmes et combat d'hommes. Croyez en moi, je suis le meilleur. Adoptez-moi, je ferai un malheur. Peut-être le vôtre, allez savoir. Le pays regardait sa peau balafrée, gorgée de pesticides, de déchets atomiques et d'abeilles mortes. Abeilles, louées par les élus qui votent pour attendre surtout qu'on ait fini de vider la dernière goutte de pesticides de l'usine chimique d'à côté, sur la tombe de l'agriculteur inconnu. Et les mêmes qui installent donc des ruches sur les toits de leur mairie, car il faut sauver les abeilles, n'est-ce pas les enfants ? Le pays regardait sa peau recouverte d'aéroports déficitaires, de rocades, de pylônes, de centres commerciaux, de maisons, d'opticiens, de banques et d'écoles en zone inondable, de ronds-points. Ah bah oui, parce que ça lui gratte la couenne au pays, le rond-point. 30 000 ronds-points, oui, près de la moitié des ronds-points du monde quand même sont chez nous, bravo. On pourrait peut-être y mettre les monuments aux morts, hein, sur les ronds-points, on ralentirait encore plus et on réfléchirait à la paix qui est parfois si fragile et à nos anciens dont beaucoup n'ont jamais eu ni 20 ni 30 ans de sécu, de portable, de vacances ni d'argent. Aujourd'hui, les plus riches de nos petits vieux qui ont eu 20 ans, 30 ans feront élire nos roitelets en se faisant plus ou moins cocufier comme tout le monde par la finance hors sol, en faisant rouler le béret dans ses mains face à notre bon maître, vous savez, qui organise et parfois légifère le vol. Et leurs enfants hériteront, et les autres se démerderont avec la révolte ou l'espoir de leurs 20 ans en bandoulière. Comme la terre qui hérite de nous, qui lui perçons le dos, qui lui découpons la banquise et Antarctique en glaçons pour boire encore et encore jusqu'à la lie, même si la coupe est pleine, même si le compte de la terre jour après jour se dégarnit. Allez valser, tournez les mots et les saisons. Et là vous le sentez, ce vent tout doux là sur la nuque, comme une caresse, une main amie qui vous retourne la tête, comme un baiser sur des boucles brunes, une voix qui vous dit « Regarde, la vie est là, elle est simple, elle est tranquille. » Alors non, cette rumeur ne vient pas forcément de la ville, c'est le retour du chant des oiseaux, le souffle doux qui demain sera chaud. Éole pousse les tendrons des feuilles aux arbres, le coucou coucoute, le cœur des grenouilles coasse, le rossignol répète ses vocalises, et au creux des partitions, au creux des buissons, les partitions s'amassent. Ah, s'amassent, mais pas de la mousse. Les tec-tec des fauvettes se sont tues, car déjà elles couvent, oui, les futurs petits qui feront hurlu-tutu. Le rouge-gorge, pour les mêmes raisons, se fait discret, et le soir, dans les feuilles sèches, le hérisson fait un boucan, mais alors un boucan d'enfer, ah oui, un boucan de paradis, pour que sa hérissonne se hérisse et se pique de plaisir contre lui. C'est le printemps, il fait trop sombre pour lire encore dans les chaises longues. Laissons la nuit aux pipistrelles et les peurs archaïques aux campagnes électorales, les discours parfois inconséquents. Cherchez les œufs de Pâques, les œufs de poule, mais pas élevés en batterie, ah bah non, sauf si elles caquettent dans un jazz poupoule band qui couvrira de jaune, de soleil étincelant les rhumatismes de la vie qui craquent. Alors les enfants, puisque vos parents, vos grands-parents ont mis l'environnement aux abonnés absents, et qu'il joue parfois, je dis bien parfois, aux inconscients, pas tous bien sûr, qu'il joue à Colin Maillard avec la terre, eh bien que tu ne quitteras jamais, hein, je te rappelle que tu n'en as qu'une, toi, de terre. Alors avec Jacques, dans ton jardin, dans ton champ, dans ton pré vert, jardine, sème, plante de la vie, qui est parfois formidablement si jolie.
Bonjour Denis, bonjour toute l'équipe. Voilà, c'est Chris de Bédouin dans le Vaucluse, au pied du Mont Ventoux. Ce matin, au réveil, il y avait des écureuils dans le jardin qui grimpaient en se courant les uns derrière les autres sur les grands pins. C'était joli à voir, ils étaient complètement agités. Dans le bassin du jardin, il y a des crapauds complètement en folie qui essayent de se reproduire en s'accrochant les uns sur les autres et c'est très 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 drôle. Et quand je regarde autour de moi, je vois des cerisiers un peu à perte de vue. C'est la cerise du Ventoux, c'est connu, hein. Donc ces cerisiers, il y en a certains qui sont encore en fleurs et d'autres qui laissent déjà apparaître des petites cerises. C'est bien, bien la promesse de bien des desserts bien gourmands comme je les aime. Sur le Ventoux, il y a encore quelques traces de neige dans les combes, mais déjà les fleurs rares pointent le bout de leur nez. Je suis allée me promener hier là-haut et c'est vraiment, vraiment le réveil de la nature, c'est extraordinaire. C'est le printemps qui est bien là et puis voilà, je voulais le partager avec vous, j'avais envie de vous faire un petit coucou. Et puis oui, comme je vous le dis souvent, continuez à nous faire rêver, continuez à nous faire respirer par les oreilles. En ces périodes un petit peu difficiles, ça nous fait vraiment du bien, en tous les cas à moi ça me fait du bien. Et je vous fais à tous des grosses grosses bises, allez ciao.
Ben merci à vous, donc Chris de Bédouin, l'a bien compris, au pied du Mont Ventoux, dans le Vaucluse. Et c'est vrai qu'en ces temps agités, eh bien une petite ronde de printemps là qui va déposer des couleurs sur nos vies, sur nos joues, ne peut pas faire de mal. Donc au menu, on va découvrir le très beau marais Vernier dans quelques instants, dans le parc naturel régional des Boucles de la Seine-Normande. Puis je vous le disais, on va changer de milieu, donc on ira chercher le printemps aussi en montagne, plus haut, avec Christian Couloumi. Et oui, parce qu'on se fait encore attendre là-haut. Et puis on ira au bord de la mer aussi, sur l'île de Groix, donc trois milieux, bref, respire tranquillement. Et puis il y aura peut-être aussi donc un autre message. Alors l'émission en fait va se garer 16 minutes plus tôt pour faire place aux candidats, mais là quelqu'un qui est aussi dans le ton peut-être de cette émission, tenez.
Il y avait des arbres, des coteaux, des châteaux, et dans le ciel des oiseaux rigolos. Il y avait des marbres par-dessus les tombeaux, et parfois même gravés des mots beaux. Il y avait des vaches, des veaux et des taureaux, une vache qui marche, c'est beau. À la route amie que j'avais faite ce jour-là, je ne pourrai jamais oublier ça. Il y avait la pluie sur le toit de l'auto, quand une pluie est gentille, c'est beau. Il y avait des gouttes qui pleuraient au carreau sur une route qui doute, c'est beau. Et soudain des pompes que l'on prenait d'assaut, une pompe qui pompe, c'est chaud. À l'amour ami que la vie fit ce jour-là, fut un amour poésie avec moi. Il y avait des phrases par-dessus les oiseaux, quand une phrase d'extase, c'est beau. Il y avait la lune par-dessus les coteaux, mais une lune pas brune, c'est haut. Et dans la campagne, un vieux train qui passait à travers la montagne pressée. Des barrières de douane à jamais abrogées, et Dieu merci Saint-Antoine, c'est vrai. J'étais fou peut-être de comprendre cela, mais moi je ne suis qu'un être, oui, d'âme. Ah, venez à moi, Apollinaire Rimbaud, avec l'ami de ma joie, Charles Gros. Arc-en-ciel de rêve sur le toit de l'auto, ces instants qui s'achèvent sont beaux. Mais ce soir, en tête, j'ai ce vieux cinéma qui vient et qui me projette tout ça. Il y avait du charme, des orages trop gros, parfois aussi des gendarmes héros. Sortant ma voiture, n'importe quel niveau, une voiture qui dure, c'est beau. Poursuivant ma route, j'aperçois un logis où l'on casse la croûte aux bougies. Il y avait des fraises, des côtelettes d'agneau, une atmosphère Louis XIII du vin chaud.
Tu y avais Thérèse et de la plopo. Une Thérèse à l'aise, c'est beau. Où vas-tu, petite, ton service fini? Moi, je t'invite à venir dans ma nuit. C'est déjà novembre, apporte encore du bon vin. Tout là-bas dans ma chambre, c'est au vin. À l'amour ami que je vécu ce jour-là, je ne pourrai jamais oublier ça.
Muriel Pérez, notre programmatrice, m'a dit « Denis, coutu à droite, ton Charles Trenet à Noël ». Donc c'est aujourd'hui, voilà, c'était donc « Il y avait des arbres », qui colle pas mal avec le printemps. Et tenez, on va pas vous emmener du côté de Narbonne cette fois-ci, mais je vais vous emmener du côté du Marais-Vernier. Nous sommes en Normandie. Entrez dans le Marais Vernier chez vous. Bonjour Thierry Lecomte.
Oui, bonjour Denis.
Alors, on va imaginer la Seine il y a quelques milliers d'années. Elle était où? Qu'est-ce qu'elle faisait?
Alors la Seine, il y a quelques milliers d'années, elle était sous nos pieds en fait, parce que c'est elle qui a creusé cet amphithéâtre que constitue le Marais Vernier, ouais, sur 4500 hectares. Et puis au fil de ces divagations de méandres, eh bien, elle a choisi un autre parcours et nous a laissé en fait une place disponible pour l'établissement d'une des plus grandes tourbières françaises.
Alors, et une tourbière d'ailleurs qui s'en est pas trop mal sortie parce qu'elle n'a pas été trop exploitée?
Oui, c'est une tourbière qui est très difficile d'accès, si bien que les trois tentatives historiques qu'il y a eu se sont terminées assez rapidement par des échecs et du coup elle est restée presque intacte sans avoir subi donc ces déprédations de l'exploitation de la tour pour le chauffage ou pour l'horticulture.
Alors ce Marais Vernier, ça signifie, enfin le Verne, pardon, en vieux français, ça signifie l'aune, l'aune glutineux pour être tout à fait précis. Donc le Marais des Aunes, et donc nous sommes dans ce parc naturel régional des boucles de la Seine normande, qui d'ailleurs englobe aussi le Marais Vernier, mais d'autres parties du territoire. Vous avez la rive droite hein, de la Seine, qui est celle, on va dire, de l'industrie lourde, avec Notre-Dame de Gravenchon. Donc on va dire que c'est la rive droite où vous avez de l'emploi industriel. Et puis donc en face, où nous sommes, ben là vous avez de la douceur, vous avez du bien-être, et évidemment qu'il y a toujours un retentissement entre les deux rives. Donc ce milieu est aussi beau qu'il peut être fragile. Et si vous êtes un oiseau, et ben alors vu d'oiseau, vous regardez le Marais Vernier, vous avez pratiquement comme une roue aux trois quarts, comme une roue très très belle. Et alors les rayons de la roue, ce sont des lanières de terrain qu'on appelle les courtils. Alors les courtils, ils vont faire à peu près un kilomètre de long, parfois sur quelques mètres de large, pas plus. Et en fait, on rattache ce mode de parcellaire à la conquête des Vikings qui travaillaient comme ça, un peu en arête de poisson. Alors c'est aussi le royaume des arbres têtards, hein, comme le frêne. Alors le têtard, c'est pas un arbre, hein, c'est une façon de tailler, donc qui permet de prélever aussi en régénérant. On faisait de la litière, de la nourriture pour les animaux et aussi surtout des arbres qui regorgent toujours de biodiversité. On est dans la communauté de communes du Roux-Moissenne et donc Thierry Lecomte est docteur en biologie. Et c'est quelqu'un donc qui est aussi conservateur de la réserve naturelle des courtils de Bouclon qu'il a créée. Il est l'administrateur Ramsar France, autrement dit les zones humides, avec le nom de cette ville iranienne, Ramsar, donc il y a un label Ramsar. Il est administrateur de la Fédération nationale des conservateurs d'espaces naturels. Je m'arrête là. Et marié avec Christine, qui est aussi environnementaliste que lui, et ben pour entrer dans le Marais, il vous dit bah faut au moins deux outils. Bah oui, le premier outil, c'est les bottes. Deuxième outil, c'est les jumelles. Et accessoirement, le troisième, le magnétophone. Alors venez avec nous, soyez sereins, vous n'allez pas vous faire mordre par une plante carnivore, je vous l'assure. Bon, alors là, je peux vous assurer qu'il n'est pas asséché, hein, parce qu'on gadouille gentiment dans cette terre sombre, bah, évidemment, parce que c'est quand même moitié tourbe, moitié quoi, glaise aussi.
Alors là, on est sur la partie de ce qu'on appelle les colluvions, c'est-à-dire ce qui descend en sorte de l'ancienne falaise creusée par la Seine. Donc on a un mélange, ouais, en fait, de terre entre la tourbe qui est un petit peu plus loin et puis ces colluvions donc, qui se sont rapprochées donc, de la tourbière. Mais plus on va avancer, plus on va être sur de la tourbe pure et on en aura à peu près 8 mètres sous les pieds.
Ouais, ok. On est à quelle merveilleuse altitude ici? 1 mètre, 2
mètres?
Alors
là, on est à peu près à 2 mètres, 2 mètres 30 au-dessus du niveau de la mer. C'est-à-dire qu'à marée haute, en fait, le niveau de la Seine est un peu plus haut que ce secteur du Marais Vernier.
Alors je vais me tourner vers Anne-Sophie, Anne-Sophie de Fond, parce que vous êtes, vous, un peu une Madame Marais Vernier pour la communauté de communes, hein, aujourd'hui qui regroupe plus de 50 000 habitants. Alors vous êtes toute jeune, hein, vous avez 25 ans. Et votre travail ici, qu'est-ce que c'est ?
Alors moi j'ai en charge en fait de mettre en valeur en fait le patrimoine du Marais Vernier et puis un travail aussi de reconnexion en fait entre l'habitant, ouais, et son environnement, parce qu'en fait on s'est rendu compte que on était plutôt sur un territoire dortoir, donc les gens ne connaissent même pas...
Pas que pour les cigognes.
Voilà, exactement. Ouais, c'est ça. Les gens ne connaissent plus en fait le territoire dans lequel ils vivent, ouais, et donc c'est en fait voilà, faire en sorte qu'ils puissent se reconnecter. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des habitants vont travailler sur Le Havre,
Rouen, etc. Hein.
Voilà, Pont-Audemer, et donc quand ils vont chercher à se divertir, ils vont partir sur Rouen, sur Honfleur, sur... Alors qu'en fait, ils ont un super terrain de jeu de 4500 hectares sous les pieds, quoi.
Alors Thierry, là c'est bien parce qu'on est accueilli par les cigognes. Hein. L'Alsace, certes, on va quand même rappeler que la Normandie et la Charente aussi, ce sont des grands pourvoyeurs de cigognes. Donc là, on a une belle plateforme.
Oui, les cigognes sont revenues dans le Marais en 1993. Hein, avec le concours du Parc naturel régional, on avait pu mettre en place des nids de cigognes, des plateformes pour les inciter. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, ce marais est peuplé d'aulnes. Les aulnes sont des arbres de petite taille. Et c'est très difficile pour une cigogne qui a 2 mètres d'envergure de s'installer sur des arbres qui sont aussi mal commodes. On observait les passages réguliers de cigognes, mais elles n'avaient pas d'arbres pour nicher. Alors on les a un tout petit peu aidées, ouais, en leur proposant ces plateformes qu'elles ont adoptées très rapidement, puisque moins d'une semaine après la pose des premières plateformes, eh bien, les cigognes étaient là pour nicher. Aujourd'hui, on a une bonne vingtaine de couples qui nichent dans ce marais vernier. Alors on a une cigogne qui est sur son nid, là, juste à côté, là, qui est en train de nous regarder. Elle espère ne pas avoir été repérée, mais là, je crois qu'on l'a quand même.
Mais tu rêves, ma fille. Oui, on est à quoi? On est à 20 mètres.
Donc là, elle est déjà en train de couver.
Ah là, elle couve, ça y est. Donc, elle va couver à peu près une quarantaine de jours. Puis après, le petit, quand il sort, il fait...
Ben, le petit, il va pas peser lourd. Il va peser à peu près 70 grammes. Ouais. Et il va devoir peser pas loin de 4 kilos un mois et demi après, quand il va devoir s'envoler pour partir en migration. Donc, c'est là qu'interviennent les Highlands. Parce qu'en fait, le pâturage va permettre d'une part aux cigognes d'avoir un accès au sol. Parce que si c'était enfriché, elles ne pourraient pas du tout trouver leur nourriture. Et en plus, le pâturage avec des bovins, surtout ces bovins qui ne sont pas traités au vermifuge, ça va permettre de produire énormément de vers de terre dans le sol, et le vers de terre est le carburant de démarrage des cigognaux. Bon, après, il y aura d'autres types de proies, mais c'est comme ça qu'avec cette nourriture très riche en protéines, donc les cigognaux vont pouvoir avoir ce qu'on appelle le GMQ, c'est-à-dire le gain moyen quotidien impressionnant qui leur permettra d'atteindre leur poids de forme pour partir en migration. Donc on a bien un lien en fait entre les vaches qui sont sous le nid et les cigognes qui sont dessus. Tout ça se tient, et c'est pour ça que les herbivores en général, surtout les grands herbivores comme les chevaux, les bovins, on appelle ça des espèces clé de voûte de l'écosystème, un petit peu comme dans une voûte romane, si on enlève la pierre qui sert de clé de voûte, eh bien la voûte s'effondre. Eh bien, c'est exactement la même chose, et c'est pour ça que le départ de l'élevage de nombreuses régions françaises de montagnes, de zones humides, de coteaux, de zones sèches, de landes, de garrigues, etc., c'est une véritable catastrophe écologique. Il faut vraiment soutenir cet élevage extensif, hein, dans les terrains difficiles.
Bah voilà une cigogne qui s'envole là, qui va chasser, qui va chercher ce qu'il faut pour nourrir maman ou papa au nid.
Donc qu'est-ce qu'elle va miloter, elle, ça va prendre ?
Une grenouille, ça peut être un petit mammifère, ça peut être une limace, ça peut être une sangsue. Elles aiment bien les sangsues aussi, il y a pas mal de sangsues dans les nains, ouais. C'est la sangsue médicinale.
Alors Thierry, il y a aussi donc le Thierry Lecomte, on va dire, un peu visionnaire, c'est-à-dire que dans les années 80, vous vous êtes dit, bon, pour ne pas laisser crever ce marais, il faut aussi un petit peu l'aider et aider la nature avec la nature. Et bah là, on voit sous les yeux donc, des vaches Highland qui sont très belles, hein, extrêmement bitniques, sont parfaites, et elles sont surtout complètement adaptées à ce territoire parce qu'elles ont une ossature qui est plus légère, on va dire, que des charolaises, pour faire simple. Donc elles s'enfoncent beaucoup moins.
Le problème, c'est que dans les milieux naturels, on oublie que les prairies sont d'authentiques milieux naturels, à l'origine broutées par des herbivores sauvages qui étaient les aurochs, les bisons, les tarpans, les élans, etc. Et c'est l'agriculture, à travers l'élevage, qui a pu maintenir ces milieux naturels. Mais aujourd'hui, pour des raisons économiques, beaucoup de zones sont à l'abandon et vont s'enfricher, se boiser, et on perd des pans de biodiversité très importants attachés au milieu ouvert. Et donc le fait de remettre des herbivores très rustiques permet de renouer en fait avec ce mode de fonctionnement naturel des milieux ouverts et d'avoir donc ces brouteurs qui vont faire le job comme faisaient les eurocs il y a quelques centaines de milliers d'années.
Alors on a un beau mélange là, on a à la fois donc les vaches et puis les chevaux camarguais.
Oui, parce qu'en fait ces deux espèces sont complémentaires. Nous avons pendant 10 ans étudié ce que faisaient les bovins d'un côté et les chevaux de l'autre pour mieux comprendre en fait qui faisait quoi. Et on a bien compris en fait qu'il y avait une certaine complémentarité. Vous avez par exemple une plante qu'on appelle le chanvre d'eau ou le lycope d'Europe. Et bien cette plante-là, le cheval il déteste, mais le bovin le mange très facilement. Et donc pour éviter un envahissement, je dirais, par cette plante, si on n'a que des chevaux, et bien le fait de mettre des bovins avec rétablit en fait un équilibre prairial.
Hop. Alors là, on passe d'un lieu à un autre, on va dire d'un champ à un autre. On est en train de s'enliser merveilleusement.
On vit la zone humide.
On vit la zone humide, oui. Comment faire? Ah oui, d'accord. Coincé là. Alors attends.
Voilà.
On va y arriver.
Comme dans les sables mouvants de la baie de Mont-Saint-Michel.
Ah bah c'est ça. Hop.
On marche sur les touffes d'herbe.
Laurence d'Arabie, mais sans le sable. C'est pareil. Alors, puisque nous fêtons l'arrivée du printemps ici dans ce marais vernier, comment il éclate ici?
Le printemps dans un marais, c'est un camaïeu de couleurs au niveau de la végétation. Elle démarre un tout petit peu tard parce que l'eau est toujours un peu froide et va inhiber le démarrage de la végétation, mais d'après, dès que le soleil chauffe un tout petit peu, ça va complètement exploser, et on voit toutes ces rangées d'iris avec des fleurs d'un jaune éclatant, donc qui sont un petit peu la signature, je dirais, de ce type de milieu à partir du mois d'avril-mai.
Alors Thierry, en fait, d'une journée à l'autre, on voit des choses, en ce moment, ça galope quand même aussi.
Oui, tout à fait.
Il y a à la fois une lenteur et puis aussi une cavalcade. Quoi,
oui, parce qu'on va voir maintenant toutes les espèces qui ont passé l'hiver en Afrique ou en Espagne qui vont débouler. Là, les premières hirondelles sont arrivées. Le coucou est dans les starting blocks. Après, ça va être les martinets. Il va y avoir le faucon brun, la bontrée apivore. Enfin, plein d'oiseaux qui vont se succéder et qui vont peupler. Et depuis quelques années, on a même ce qu'on appelle le circaète. Le circaète, c'est un petit aigle.
Jean Leblanc.
Le Jean Leblanc, absolument. Donc, il s'est spécialisé dans la consommation des serpents. Et il a trouvé le marais vernier assez sympa pour venir s'y établir, et tous les ans maintenant ce petit aigle donc vient prédater les couleuvres pas assez rapides du secteur.
Oui. Et alors peu de moustiques quand même ici.
Alors peu de moustiques parce que nous avons la chance dans ce milieu très très complexe d'avoir encore des belles populations de chauves-souris, des belles populations de libellules, des belles populations d'amphibiens, des belles populations de fauvettes, et donc
rasmotte.
Eh bien, elles font ça pendant toute la belle saison. On va les avoir jusqu'au mois de septembre. Les jeunes vont partir beaucoup plus tôt en migration, mais les parents sont trop fatigués par l'élevage des jeunes. Ils ont perdu des plumes, ils ont beaucoup maigri. Ils seraient plus tellement d'attaque pour partir en migration. Alors, ils vont profiter que les gamins sont partis pour se refaire une petite santé et partir à leur tour en migration, mais quelques semaines après donc le départ des jeunes.
Et puis ça sent bon, ça sent bon.
Alors le marais, il y a comme quelques espèces qui sont avec des fragrances assez fortes, notamment les menthes, la menthe aquatique, mais on a aussi le piment royal, enfin on a plusieurs plantes comme ça qui donnent aussi une odeur particulière, et la tourbe elle-même a également une odeur qui lui est propre.
Alors elle sent pas le whisky ici, mais...
Alors ça sent pas dans le whisky, hélas, mais en fait... le marais Vernier est bordé de coteaux, souvent plantés de vergers, de pommiers. Et là, ce serait plutôt la note calvados que la note whisky.
Je comprends, oui. Allez, vive la pomme. Bon, petite grenouille. Tiens. Oh, bonne petite grenouille.
Oui, oui, oui.
Hop, Anne-Sophie, vous attrapez. Voilà. Cette grenouille.
On se mouille bien les mains.
Oui, on la bloque gentiment.
On la bloque.
Et on va pas te manger tout de suite, t'inquiète pas.
On attrape la patte et on regarde si elle dépasse la tête. Et si c'est le cas, ce serait une petite grenouille agile. Et c'est le cas. Bon, elle est pas très contente, mais elle est repartie.
Oui. Pas besoin d'autre chose là, Anne-Sophie.
Ah non, on est bien. Il change de couleur. Souvent, on me posait la question, quand est-ce qu'il faut venir dans le marais? Moi, je dis tout le temps. Parce qu'il change tout le temps de couleur en fonction des saisons. Il est toujours beau.
Thierry, là, nous sommes devant un tableau. Le tableau est à nos pieds.
Oui, alors là, c'est un tableau. On n'a que du vert. Mais on a au moins 10 ou 15 sortes de verre. On a du vert mousse, on a du vert bronze, on a du vert bleuté, on a du vert glauque, on a du vert jaunâtre, on a toutes les nuances de vert, là, sur 1 mètre carré. Et c'est ça aussi, la diversité, la biodiversité des espèces. C'est aussi une diversité pour l'œil, diversité du paysage.
Vive le printemps et vive les 50 nuances de vert.
Alors Victor Hugo disait « Le mois de mai sans la France n'est pas le mois de mai ». Moi, je considère que le mois d'avril sans le marais Vernier, ce n'est pas le mois d'avril.
Découverte donc de ce marais Vernier dans ce parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande, c'est très beau. C'est tout, vous êtes là, vous êtes entre parenthèses, tranquillement, pas forcément besoin d'écran. Si, si, je vous assure, après peut-être, mais d'ailleurs vous avez des informations sur le site de CO2 Mon Amour, hein, bien sûr, sur ce marais Vernier. Donc merci à Thierry Lecomte, à Anne-Sophie Defonte, que l'on retrouvera un peu plus tard dans cette émission. Et puis bah, nous, on va poursuivre notre voyage, notre ronde de printemps après le marais. Eh, qu'est-ce que ça va être?
Chic, choc, très tendance et pas cher, durable au moins une fois par semaine, c'est CO2 Mon Amour avec Denis Chessou.
Eh bien là, ça sent carrément la mer parce qu'on va retrouver Catherine Robert qui est la responsable de la réserve naturelle de Groix. Donc eh bien, évidemment, nous sommes en Bretagne, vous avez 400 millions d'années de géologie qui vous contemplent, des mégalithes. Groisillonne, Groisillon, nous allons parler de votre île. La pointe du Chat n'est sûrement pas loin, donc bonjour à vous Catherine Robert. Alors racontez-nous un peu ce printemps et puis le paysage s'il vous plaît.
Bonjour Denis. Alors là, je suis sur le site de Penmen où il y a des grandes falaises. Et là, bien, il y a tous les goélands qui sont arrivés pour nicher. Je viens de voir un couple qui vient de se reproduire. Et dans quelques jours vont être pondus les premiers œufs. Alors pour les goélands argentés et goélands marins, ce sera dans les falaises. Alors que le goéland brun, qui nous arrive depuis quelques semaines de l'Espagne et du Portugal, lui va pondre dans les Landes.
Alors, annonciateur du printemps, donc on va dire ce goéland, mais alors peut-être aussi d'autres signes du printemps sur cette île et donc avec cette mer face à vous.
Oui, alors bien sûr, c'est la plus belle saison pour venir visiter l'île puisqu'il y a des fleurs partout, autant dans la nature que dans les jardins. Nous, à Groix, on commence à voir les fleurs de pommiers qui sont en train de s'épanouir. Avant, c'était les prunelliers qui ont tapissé Groix d'arbres tout blancs. On a eu aussi la floraison des poiriers. Donc maintenant, c'est les pommiers. Après, ça va être les tilleuls qui vont commencer à... Les petites fleurs vont sortir, les petites feuilles. Ensuite, ça va être les figuiers et les noyers. Ce sont les derniers. Mais il n'y a pas que à Penmen que le printemps est là. Au trou de l'enfer vient de s'installer des couples de vanneaux. Il y a les premiers œufs qui sont déjà pondus. Et puis aussi un couple de gravelots à collier interrompu.
Alors racontez-nous aussi l'origine du mot Groix. Qu'est-ce que ça veut dire pour cette île de 2500 hectares?
Groix, d'après ce qu'on peut lire dans les livres, ça viendrait de groé qui veut dire sorcière. Mais en fait, on n'en sait rien. Là, on dit toujours qui voit Groix voit sa joie.
Oui. Alors si on veut la dépeindre, cette île avec ses 17 villages, je le disais, 1500 hectares, qu'est-ce que l'on peut dire? Quelle est l'originalité de cette île?
Elle fait 3 km sur 8 et malgré sa petitesse, on a une magnifique plage, la plage des Grands Sables qui part dans la mer, c'est une plage convexe. On a des falaises vers Penmen, c'est la côte sauvage. On a le petit village de Logmaria qui est très joli avec ses toutes petites rues.
Catherine Robert, dans votre réserve naturelle de Groix, quel est le coup de cœur que vous avez?
la réserve naturelle de Croix a été créée d'abord pour son patrimoine géologique. Sur Croix, on a 60 minéraux différents, dont surtout trois grands types de roches, des micaschistes qui brillent au soleil, mais aussi des schistes bleus et des schistes verts, de toute beauté, dans lesquels parfois on trouve des grenats, un minéral qui possède 12 facettes en forme de losange, qu'on retrouve après dans les sables sous forme de sable rouge. On a des oiseaux rares, on a des faucons pèlerins qui viennent nicher sur la réserve à Penmen, on a aussi un couple de grands corbeaux, on a beaucoup, beaucoup de vanneaux huppés qui nichent tout le long de la côte. Enfin, c'est une île qui est très riche en oiseaux et où la flore est intéressante puisqu'on a aussi des landes à bruyère vagabonde. Mmh.
Quelle est la couleur que vous avez sous les yeux là aujourd'hui, là, puisque vous êtes dehors en train de nous parler?
La lande est toute jaune avec les fleurs d'ajon. Les prunelliers sont encore en fleurs par endroits, ils sont tout blancs. Au bord de côte, on a nos petites armeries qui sont toutes roses, avec les fleurs, les silènes maritimes qui, elles, sont de couleur blanche. Enfin, ça fait tout un camaïeu de couleurs, avec nos falaises qui sont tapissées par un lichen jaune, la xanthorie. Hein, c'est de toute beauté à cette saison.
Merci à vous, Catherine Robert, donc sur l'île de Groix. Alors après donc le marais, après la mer et donc cette île, un troisième milieu, c'est la montagne. On va rejoindre notre monsieur Montagne qui est Christian Couloumi. Alors là, c'était en reportage hein, avec lui. Nous sommes dans le département des Hautes-Alpes qui est le sien. Cet homme a fait sa carrière au Parc National des Écrins. C'est le président de l'association Envergure Alpine qui regarde les rapaces, qui les compte et puis qui connaît bien maintenant donc tous ces rapaces depuis très longtemps, Envergure Alpine. Et là, on était donc assez haut dans le massif du Parc-Paillon et le printemps, ben, c'est pas pareil, hein. il se fait un petit peu attendre et c'est normal. Bonjour Christian Couloumi.
Bonjour Denis.
Alors cher Christian, on est chez vous donc dans cette montagne pour saluer l'arrivée du printemps, mais là on est quand même en altitude, on est à 1600-1700 mètres, donc c'est pas pareil qu'en plaine.
Ben non, c'est pas pareil qu'en plaine, il y a une composante verticale, ce qui fait que plus on monte, moins il fait chaud, plus l'hiver est là longtemps, plus il se met les mains sur les hanches en regardant le printemps d'un œil un peu sévère, en lui disant « Attends, je reste encore un petit peu, je suis bien là-haut, j'ai mon matelas de neige. Ouais. » Mais les choses vont aller très vite, les jours rallongent, le soleil est plus fort. Et puis vous voyez déjà, les mélèzes commencent à laisser pousser leurs feuilles, et puis surtout leurs jolies fleurs roses, rouges.
Et puis on les utilise, bien sûr on utilise le bois, on le sait, du mélèze, mais on utilise aussi donc les petits bourgeons et les fleurs.
Oui, les bourgeons sous diverses formes. J'ai entendu dire qu'on pouvait les associer à de la viande, on pouvait les associer également donc à de la liqueur, ce que vous avez goûté d'ailleurs.
Oui, très bon désinfectant.
Ce qui vous donne un teint magnifique d'ailleurs.
Totalement, Christian. Et alors, les plantes, elles vont sortir quand à peu près?
Bah, il va y avoir toute une succession de plantes. Il y a les premières qui vont sortir, les premières vertes, on va dire ça.
Donc ça, c'est déjà fait pour nos amis qui nous écoutent, hein,
voilà,
un peu partout.
Ça, c'est fait un peu partout, mais en montagne, le printemps va monter doucement hein, contre la résistance de l'hiver, et puis va se manifester justement par des belles journées très très chaudes où tout va exploser, et puis de nouveau, il va peut-être neiger si on est très haut, et puis les fleurs vont sortir les unes après les autres. Il y en a qui sortiront simplement en juillet, hein. C'est très long tout ça. Donc c'est vraiment bien la montagne pour ça, parce qu'on a une saison qui s'étale, on a plusieurs saisons en même temps à quelques kilomètres d'intervalle et ben là on est vraiment très content d'en profiter des beaux jours, de la lumière de notre Alpes. Je suis un peu chauvin là-dessus, oui.
Et alors vos chers aigles, puisque vous êtes le président donc de cette association Envergure Alpine, ben, ils attendent aussi peut-être les petites marmottes et autre chose.
Ah ben les petites marmottes, ça va être fait là. Ouais. Hein, le 15 mars, les premières sont sorties et puis les aigles, ben, en même temps que les marmottes sortent, ben, la femelle aigle va se mettre sur son nid et va couver les œufs pendant un mois et demi. Donc quand le petit viendra au monde, vers le début mai, là, 15 mai, eh bien, il y aura plein de marmottes partout, ce sera plus facile. La nature est quand même super bien faite, quoi.
Pour caractériser ce printemps, qu'est-ce que l'on a d'autre?
Eh ben, des naissances, c'est les petits chamois qui vont naître au courant du mois de mai, encore un petit peu en juin. Les petits bouquetins naîtront un peu plus tard. Donc c'est vraiment, vous le savez, ça sera partout pareil dans le voyage que vous allez faire à travers la France. Ben, le printemps, c'est la vie qui redémarre. Et puis il y aura la mélancolie de l'automne plus tard. Mais aujourd'hui, c'est le printemps, alors on a un grand sourire, on a les yeux grands ouverts et on profite de ça, ouais.
Grand merci Christian Couloumi.
Merci à vous Denis. Continuez de boire de la liqueur de mélèze, ça vous va très bien au teint.
On pensait bien. Et puis on va se souhaiter donc le meilleur, en regardant ce printemps arriver, là encore un peu plus haut, et en tout cas il est déjà là dans vos jardins.
Je peux vous le dire, donc on se retrouve avec Christian et aussi Jean-Michel Bertrand, donc l'homme de la Vallée des Loups, la semaine prochaine, parce que là, on a tourné une jolie fable qui va s'appeler L'Aigle et le Loup. Voilà, ce sera la journée présidentielle, on sera donc très très nature, et enfin le week-end. Et voilà, donc on se retrouvera avec lui la semaine prochaine. 01 56 40 40 35, une autre façon aussi de regarder certains rapaces avec ce message.
Bonjour Denis, c'est Jean-Marie. Ici, au bord de la Loire, près d'Orléans, au cœur d'un très vaste paysage vraiment magique, le printemps est une merveilleuse féerie de fleurs, de couleurs, de senteurs. Mais c'est aussi le retour d'une multitude d'oiseaux migrateurs. À Mardier, l'extraordinaire balbuzard pêcheur vient se reproduire tous les ans sur une aire située dans les bois à 30 mètres de haut. Hier même, la femelle Sylva y a déposé son premier œuf. Et pour Pâques, on en attend encore au moins deux. Vous aimeriez voir ça? Ben, les images sont en direct sur Internet, à l'adresse balbucam.fr. Filmé par la première caméra en France, qui permet d'observer en continu un couple de balbuzards sur son aire, la balbucam. Voilà une autre manière de participer à cette grande fête du printemps. Salut Denis.
Eh bien, salut à vous avec cette balbucam. Vous n'hésitez pas, hein, 01 56 40 40 35, vous en avez donc l'habitude pour déposer vos messages, absolument en tout genre, sur le printemps ou bien sur ce que vous souhaitez. Donc notre fable la semaine prochaine, L'Aigle et le Loup, on aura Frédéric Noé. Merci à Léo Prangère et Elodie Royer, donc à la technique aujourd'hui, à Camille Blanès et à Hélène Bisio qui a réalisé, qui a colorié aussi ce marais vernier, pardon. Merci à elle, à Muriel Pérez, Anne Gouzon qui nourrit les sites, ainsi que Marielle Buteau. Voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter donc un très très bon week-end. Alors c'est pas tout de suite qu'on va retrouver la librairie francophone. Non, là maintenant nous retrouvons la campagne officielle des élections présidentielles.